RFI, 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Simon Bourtembourg.
Bonjour Julien, bonjour à toutes et à tous. À la une de ce journal, sur le terrain, comme dans les négociations, le M23 et Kinshasa tentent chacun de prendre le dessus. Les rebelles soutenus par le Rwanda veulent des discussions directes avec les autorités congolaises. C'est non, répète à l'envi Félix Tshisekedi, alors que le M23 accentue la pression dans le nord de la RDC. Relancer les relations bilatérales entre l'Éthiopie et la France, voilà le sens de la visite hier du président français à Addis Abeba. Emmanuel Macron a multiplié les annonces, nous les décrypterons dans quelques instants. À la une également, la réponse d'Abuja à Niamey. Le ministère des Affaires étrangères du Nigeria rejette en bloc les accusations de déstabilisation de son voisin du Sud. Et puis, en fin de journal, nous serons à Madagascar. Madagascar où la communauté scientifique s'est réunie avec des acteurs de la société civile pour débattre des questions sensibles du patrimoine sur l'île. Le M23 n'en démord pas. Les rebelles soutenus par le Rwanda entendent forcer la main à Kinshasa et ce pour entrer en négociation directe avec le pouvoir congolais comme le veut Kigali. Fin de non-recevoir de Félix Tshisekedi, le M23 est un groupe terroriste pour le président congolais. Les détails depuis Kinshasa avec Patient Ligaudy.
Le M23, par la voix de son chef politique Bertrand Bisimwa, persiste à demander un dialogue direct avec le gouvernement congolais. Le mouvement affirme vouloir aborder les causes profondes du conflit, rejetant même catégoriquement toute intégration de ses revendications dans le cadre du processus de Nairobi qui rassemble divers groupes armés locaux et étrangers opérant en RDC. Pour le M23, un tel forum diluerait ses revendications spécifiques. Bertrand Bisimwa va plus loin, il souligne, je cite, « Ce n'est pas aux groupes armés de gérer ces questions, mais au gouvernement et refuse également l'éventualité de négociations qui se limiterait à des arrangements sur des postes ou des grades. » Kinshasa, de son côté, maintient une position ferme, pas question d'accepter un dialogue direct avec le groupe rebelle, il n'est qu'un instrument au service du Rwanda. De son côté, la communauté internationale, par le biais du Conseil de sécurité des Nations Unies, exige la démobilisation immédiate et définitive de tous les membres des groupes armés et appelle à la reprise des pourparlers dans le cadre du sommet tripartite de Luanda entre la RDC, le Rwanda et les facilitateurs angolais. Patient Ligaudy, Kinshasa, RFI.
Et hier, la sécurité dans la sous-région était aussi évidemment au cœur des discussions entre Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso. Après l'échec du dernier sommet tripartite de Luanda, le président congolais était venu chercher le soutien de son voisin dans la médiation menée par l'Angola. Correspondance à Brazzaville de Loïcia Martial.
Le président Félix Tshisekedi a été accueilli par le premier ministre Anatole Kouliné Makosso. C'est en milieu d'après-midi qu'il a rejoint son homologue Denis Sassou Nguesso au palais du plateau. Après le dîner, leur tête à tête a duré de longues heures. À interroger sur les échanges, une source diplomatique a affirmé qu'ils ont été dominés par les questions de paix à l'est de la RDC et le renforcement des relations entre les deux pays. Un communiqué conjoint remis à la presse annonce que Félix Tshisekedi a présenté à son homologue l'état de la situation à l'est de la RDC ainsi que le processus de Luanda dont les récentes négociations ont avorté. Kinshasa refusant de discuter directement avec le groupe M23 qui sème la terreur dans cette zone. De son côté, le président Denis Sassou Nguesso a dit toujours, selon ce texte, soutenir les efforts déployés par le président angolais, João Lourenço, en vue de mettre un terme à cette crise. Enfin, il a exhorté les partis à poursuivre et privilégier les négociations en cours, qu'il qualifie, je cite, de moyens par excellence de résolution des conflits. Loïcia Martial, Brazzaville.
Et c'est dans ce contexte que pourtant de violents combats ont une nouvelle fois été observés ce samedi sur plusieurs axes dans le territoire du Lubero. Des affrontements entre les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et l'armée congolaise. L'armée congolaise qui a lancé des contre-offensives sur l'axe du Lubero avec l'appui des Wazalendo. Les villages de Kanyambi et Mambasa ont été récupérés, annonce Kinshasa. Emmanuel Macron a achevé hier une tournée de 2 jours dans la Corne de l'Afrique, après Djibouti, où il a rencontré hier matin le président Ismaïl Omar Guelleh. Le président français s'est rendu à Addis Abeba pour une visite officielle de quelques heures, sa deuxième dans le pays. Après avoir déposé une gerbe au monument de la bataille d'Adoua, la bataille qui signa la victoire retentissante de l'Éthiopie face à l'Italie en 1896, le chef de l'État français s'est rendu au Palais National, où il s'est entretenu et a dîné avec le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Pierre Fersion, vous avez suivi le déplacement d'Emmanuel Macron, vous rentrez tout juste d'Éthiopie. Et Pierre, sur place, le président français a fait plusieurs annonces.
Oui, après avoir participé financièrement à la rénovation du palais national et des églises de la Libella, Paris va appuyer à hauteur de 100 millions d'euros le programme de réforme lancé par Addis Abeba pour libéraliser son économie. Le président français s'est également engagé à accorder un prix exceptionnel de 80 millions d'euros de l'AFD pour la modernisation du réseau électrique éthiopien, modernisation à laquelle devraient participer des entreprises françaises. À travers cette visite, Emmanuel Macron a voulu marquer le retour de la France en Éthiopie, un peu plus de 2 ans après la fin de la guerre au Tigré. Une partie de l'aide française avait été suspendue pendant cette guerre. Désormais, elle a repris. C'est vrai notamment pour l'aide en matière de défense et de sécurité. Abiy Ahmed s'est dit reconnaissant envers la France, qualifiant Emmanuel Macron de frère, d'ami, un ami qui, outre les partenariats, aborde aussi parfois les sujets qui fâchent. L'esprit de dialogue qui a prévalu dans la résolution du conflit au Tigré inspirera, je le sais, la résolution d'autres situations difficiles pour parvenir à une paix durable, a lancé le président français, référence directe au conflit en cours dans les régions Oromia et Amhara. Emmanuel Macron a également évoqué l'accord de Pretoria qui a mis un terme à la guerre au Tigré. La France soutient sa mise en œuvre, a-t-il expliqué, en développant des projets dans des régions affectées par le conflit. Un soutien est notamment apporté aux populations les plus touchées, comme les femmes victimes de violences sexuelles.
Pierre Fircion, de retour d'Addis Abeba, merci à vous. Cap, sabre et bâton, voilà Mahamat Idriss Déby, affublé de tous les attributs de maréchal. Le fruit de ses services rendus à la nation et de ses nombreuses victoires militaires, peut-on lire dans la résolution adoptée à 3 semaines des élections législatives et locales. La cérémonie de maréchalisation a eu lieu samedi après-midi dans la cour du palais présidentiel à N'Djamena. Après son père, le chef de l'État tchadien revêt l'uniforme de la plus haute distinction du pays à 40 ans seulement et après 3 années passées au pouvoir. Je vous le disais en titre, la réponse nigériane aux accusations de déstabilisation du Niger. Un démenti a été publié hier par le ministère des Affaires étrangères du Nigeria. Niamey assure que son voisin du Sud se sert pourtant du Niger comme d'une base arrière et ce, en complicité avec certaines puissances étrangères et les dignitaires de l'ancien régime qui s'y trouve. Les précisions avec Wely Diallo.
Le gouvernement du Nigeria est très inquiet et a affirmé fermement qu'il n'y a pas de troupes militaires françaises dans le nord du pays, se préparant à déstabiliser le gouvernement du Niger. Le porte-parole du ministère a ajouté que ces allégations sont sans fondement et doivent être rejetées dans leur intégralité. La polémique avait débuté le week-end dernier lorsque le ministre des Affaires étrangères du Niger a lu un communiqué à la télévision nationale. Dans ce communiqué, il accusait donc le Nigeria de vouloir déstabiliser le pays ainsi que de participer à un complot avec l'aide d'une puissance étrangère, sans pour autant mentionner explicitement la France. Ces tensions interviennent alors que le pipeline qui transporte le pétrole nigérien vers le Bénin en longeant la frontière du Nigeria a été saboté 3 fois en moins de 2 semaines par des hommes armés que Niamey accuse de venir du Nigeria. Des accusations également démenties dans le communiqué. Pour le Nigeria, cette attaque serait l'œuvre du groupe terroriste Lukurawa. Les relations entre les deux pays se sont tendues suite au coup d'État de 2023, la création de l'AES et l'annonce de sa sortie de la CEDEAO.
Les précisions signées Wely Diallo. Ne leur parlez pas de victoire encore, mais en Tunisie, les défenseurs des droits humains sont désormais soutenus par une 40aine de députés qui souhaitent réviser le décret-loi 54. Ce texte promulgué en 2022 par le président Kais Saied est décrié par beaucoup. Il a notamment permis les poursuites contre une 15aine de journalistes. Des internautes sont également ciblés. À Tunis, la correspondance de Lilia Blaise.
Mohamed Ali est député et rapporteur de la commission droit et liberté au Parlement. Il plaide en faveur de l'amendement du décret-loi.
C'est un décret qui malheureusement va à l'encontre des droits des citoyens, qui entrave leurs droits politiques, économiques et sociaux et leur liberté d'expression. C'est pour cela que nous nous sommes regroupés pour soumettre l'initiative d'un nouveau projet de loi autour de ce décret. Je pense qu'en faisant cela, nous ne sommes pas en décalage avec la réalité du pays. Nous ne sommes pas les seuls à être favorables à la révision de ce texte.
Pour Ziad Dabar, président du syndicat des journalistes, le soutien des députés est un pas en avant, car cela fait 2 ans que les journalistes et défenseurs des droits humains se mobilisent. Mais certains obstacles persistent.
Première phase, il y a eu une dizaine de députés. Aujourd'hui, il y a presque 57 signatures pour déposer cette initiative, sauf que le président du Parlement rejette toujours cette idée. On ne sait pas pourquoi.
Et selon la constitution tunisienne de 2022, le pouvoir du Parlement reste très restreint face à celui de l'exécutif. Lilia Blaise, Tunis, RFI.
Et puis un reportage à Madagascar pour refermer ce journal. Pendant 3 jours, une série de rencontres était organisée sur l'île pour évoquer les enjeux autour de la préservation du patrimoine. Sarah Teto.
Dans les salles, assistant aux débats, des jeunes et des moins jeunes, tous animés par le même désir de mieux cerner les enjeux de ce que les scientifiques nomment patrimonialisation. Avec pédagogie, Eliante Radzonarson, enseignante-chercheuse et directrice du département d'histoire, explique.
Le patrimoine, c'est quelque chose qui est créé, qui a été hérité des ancêtres et qu'on va laisser aux générations futures. Et le soin qu'on apporte à ce processus-là, c'est la patrimonialisation.
Cependant, tout n'est pas à patrimonialiser, avertit Bakra Swarfe, chercheuse et spécialiste du patrimoine malgache.
Ce qu'il faut patrimonialiser, c'est des biens qui sont censés être transmis à la génération future parce qu'ils sont dotés d'une valeur qui entre dans l'identité de la communauté. Une identité où la population doit éprouver une certaine fierté.
Sur cette île, à la croisée de multiples civilisations et influences, la démarche de patrimonialisation revêt donc un caractère particulier, souligne la chercheuse.
L'enjeu, c'est créer une certaine cohésion entre les peuples, d'autant plus que c'est un pays avec une diversité culturelle tellement immense que ce que nous cherchons, c'est de bien relever ce qui nous tient en commun.
Aujourd'hui, la communauté scientifique malgache exprime le désir que les politiques culturelles publiques prêtent plus d'attention à la conservation et à la valorisation du patrimoine existant, plutôt qu'à sa personnalisation, voire à son travestissement. Sarah Teto, Antananarivo, RFI.
Et c'est ainsi que se referme cette édition. Place à présent à la suite des RFI Matins.